Alléluia.
Béni soit le Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, chapitre 19. Au chapitre 19, au verset 11. Pour lire ensemble, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines ». Il lui dit « C'est bien, bon serviteur ». Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais m'arrêter sur cette parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Que ton règne vienne ». Amen. C'est ce que nous voulons, que le règne de Jésus-Christ vienne, que le règne de Jésus-Christ vienne dans nos vies, dans nos cœurs, que ton règne vienne. Vous savez que c'est la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, et c'est vraiment un point très important, et ce n'est pas pour rien que justement c'est dans les premières paroles, quand il apprend à ses disciples à prier, qu'il leur dit « Dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Il y a dans le cœur de tous les chrétiens cette attente que le règne de Jésus-Christ vienne, mais qu'il s'établisse réellement, concrètement, dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce soir. J'aimerais voir qu'est-ce que le règne de Christ, que le règne de Dieu commence ici, maintenant, et qu'il y a des responsabilités, un rôle que le Seigneur nous a donné. En attendant sa seconde venue, que nous comprenons au travers de cette parabole que nous avons lue. Jésus-Christ donne cette parabole, il nous le dit au début, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Une autre version dit et que beaucoup de gens s'imaginaient que d'un instant à l'autre, le règne de Dieu serait instauré de manière visible. Les disciples de Jésus-Christ, ceux qui étaient là, qui l'entouraient, se trompaient sur ce qu'était le règne de Dieu. Ils s'imaginaient que Jésus-Christ était venu pour un règne politique terrestre, pour les libérer de la domination des Romains, mais ce n'était pas pour cela que Jésus-Christ était venu. Et cette parabole vise justement à corriger cette erreur. Non pas le fait qu'il ne soit pas venu pour régner, mais le fait qu'ils soient venus dans l'attente qu'eux avaient. Et il est clair que Dieu règne, sa parole nous le dit, Dieu règne. Il est au-dessus de tout, il domine tout, il contrôle tout, il est souverain, il règne. Et Jésus-Christ règne. Dans ce passage, Jésus-Christ, justement, nous donne de réaliser quel est le but de son règne. Et nous voyons qu'il commence sa parabole en parlant d'un homme de haute naissance, s'en allant dans un pays lointain. Et il est question, quand Jésus parle de cet homme de haute naissance, il est question de Jésus-Christ lui-même. C'est lui, cet homme, on pourrait dire, de très haute naissance, de la plus haute naissance qui puisse être. Jésus-Christ vient de Dieu, il est Dieu, et il est venu sur cette terre pour nous donner justement de réaliser qu'est-ce que le règne de Dieu, le vivre et l'expérimenter. Et il parle de lui comme étant un homme, dans cette parabole. C'est ce qui nous montre vraiment l'immense amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu, sa miséricorde, sa compassion qui l'a poussé à venir s'associer à chacun d'entre nous, à notre humanité et à revêtir la forme humaine. C'est vrai qu'on peut être interpellé par cette parabole et la trouver compliquée, dure, quand on voit comment elle se termine. Mais il y a une réalité, c'est vrai, il y a des conséquences à ne pas laisser Christ régner en nous. Alors j'aimerais d'abord voir qu'est-ce que le règne de Christ. Qu'est-ce que le règne de Christ? Jésus, durant son ministère sur cette terre, n'a cessé d'enseigner, justement d'enseigner ses disciples, d'enseigner tous ceux qui venaient à lui sur le règne de Dieu. Il a pu commencer, ça a été ses premières paroles quand il s'est mis à prêcher, « Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. » Voilà ce qu'il pouvait dire quand il a commencé à prêcher, « Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. » Et encore aujourd'hui, pour entrer dans ce règne, pour entrer dans le règne de Dieu, le vivre, l'expérimenter, c'est la même démarche, la repentance. Il n'y a qu'un seul moyen de le vivre et de l'expérimenter, c'est de passer par cette étape. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Plus que proche, Jésus-Christ a pu dire, par ailleurs, dans Luc chapitre 17, verset 20, quand justement les pharisiens lui posèrent des questions par rapport au règne de Dieu, ils se posaient des questions, ils ne comprenaient pas aussi, ils avaient une mauvaise conception de ce qu'était le royaume de Dieu. Et ils ont pu interpeller Jésus-Christ, et il nous est dit dans Luc 17, verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et cette parole est toujours et autant actuelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a pu dire à ses pharisiens que le royaume de Dieu était là, au milieu d'eux. Mais eux, ils ne réalisaient pas. Ils ne réalisaient pas la présence de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et malheureusement, eh bien, plusieurs sont passés à côté. Le royaume de Dieu, oui, ne vient pas frapper les regards. Jésus-Christ est venu en simple homme sur cette terre. Il n'est pas venu en proclamant qu'il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et pourtant, il aurait pu. Il aurait pu, parce qu'il l'est. Il aurait pu, mais il est venu en simple homme pour servir et donner sa vie, en rançon pour chacun d'entre nous, à la croix. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que le royaume de Dieu dans notre monde, aujourd'hui, quand on regarde le monde dans lequel on est, le monde dans lequel on vit, où est-ce qu'on voit le royaume de Dieu ici-bas? Quand on regarde tout ce qu'il se passe, la souffrance, toutes les atrocités, les guerres, le péché, le mal, la mort, où est-ce qu'on voit le royaume de Dieu? Comment on peut dire que le royaume de Dieu est là, au milieu de nous ? Jésus-Christ a pu enseigner à plusieurs reprises, je le disais, à ses disciples le royaume de Dieu. Et il a donné plusieurs paraboles. Il a pu dire « le royaume de Dieu est semblable à ». Et il y a plusieurs paraboles qui nous donnent de comprendre justement comment est le royaume de Dieu. Et il a pu donner celle-là, j'en prendrai juste une, qui nous dit dans Marc chapitre 4, verset 26, il dit encore « il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment ». La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Voyons clairement dans cette parabole que, là encore, le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Vous avez vu, certainement, vous avez déjà entendu, en tout cas, comment la semence croît, comment les agriculteurs travaillent quand ils semencent dans leur champ. Ça prend du temps. Ça ne se voit pas forcément, mais ça évolue, ça grandit. Le grain qui tombe en terre meurt, et puis par la suite produit la vie. Il y a ce germe qui se développe. Et puis par la suite, comme nous l'avons lu, l'herbe qui pousse, l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et une fois que le fruit est mûr, c'est là qu'il y a la moisson. Le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Mais il est là, et il est bien réel. Il est bien réel. Et il avance, il évolue, il grandit. Petit à petit, il existe. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Ce qu'il nous faut savoir par rapport à ce qu'est le règne de Christ, ce qu'il nous faut vraiment retenir, c'est que le règne de Christ commence premièrement dans nos cœurs. C'est premièrement dans nos cœurs que cela se passe. Les Juifs, les disciples de Jésus-Christ attendaient un roi qui allait, comme je le disais, les libérer de la domination des Romains. Mais Jésus-Christ est venu pour être le roi dans nos vies, dans nos cœurs, le roi de chacun d'entre nous, de chacune de nos vies. Et il appartient à chacun d'entre nous de le laisser régner. Et le Seigneur nous appelle à cela. Il nous appelle à le laisser régner sur le trône de nos cœurs. C'est là le règne de Christ. Le règne de Christ, c'est le laisser prendre toute la place, le laisser diriger, celui qui commande et qui dirige notre vie. C'est cela le règne de Christ. Et il nous appelle à l'accepter volontairement et joyeusement. Et il n'y a rien de plus grand, j'aimerais vous dire, il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'expérimenter le règne de Christ dans sa vie, dans son cœur, de le laisser tout diriger. Il n'y a rien de plus, je dirais même, de plus simple. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est beaucoup plus difficile de vivre dans ce monde sans laisser Christ régner dans notre vie, dans nos cœurs, que de le laisser régner. Quand on vit dans ce monde sans que justement Christ règne dans notre vie, dans notre cœur, on est comme un peu comme si on était dans un pays où il n'y a pas de gouvernement, et où il n'y a pas de règles. C'est l'anarchie, c'est le chaos. Il n'y a aucun repère, aucune direction, c'est le désordre et il n'y a point de paix. Et c'est exactement comme cela, c'est ce qu'il se passe quand justement Christ ne règne pas dans nos vies, dans nos cœurs, c'est le désordre, il n'y a pas de paix, et il n'y a pas de règles, pas de direction, mais il n'y a rien de plus grand, je le redis, de plus merveilleux que de laisser Christ régner en nous, l'espérance de la gloire. Comme nous le dit sa parole, pour tous ceux justement qui l'ont accepté, c'est là ce qui nous réjouit, de demeurer en Christ, de le laisser régner en nous. C'est là ce qu'il y a de plus grand, de plus merveilleux. Voilà ce qu'est le règne de Christ. On pourrait davantage parler, exposer, mais c'est ce que j'avais à cœur de partager. J'aimerais vous dire que le règne de Dieu commence ici. Je l'ai dit, il commence auprès de tous ceux qui l'acceptent, de tous ceux qui l'acceptent. Dieu ne force personne. Nous le voyons dans cette parabole, c'est, nous voyons que il y a eu ces hommes qui se sont mis à haïr justement cet homme de haute naissance qui représente Jésus. Nous le voyons verset 14, « Ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». C'est là l'attitude de plusieurs personnes encore aujourd'hui dans ce monde et on se demande pourquoi ça va mal. Et c'est peut-être là ton attitude ce soir. Je ne veux pas que Christ règne dans ma vie. Peut-être que si tu ne le dis pas, peut-être c'est ce que tu expérimentes, c'est peut-être le comportement, par ton comportement, ce que tu témoignes envers Dieu. Et il est vrai que cette parabole peut nous paraître dur, mais c'est la réalité. Dieu est un juste juge et nous voyons les conséquences de ne pas laisser Christ régner en nous. Nous voyons qu'à la fin de cette parabole, ces hommes ont été tués. Et il y a une réalité pour tous ceux qui n'accepteront pas le règne de Dieu, c'est que ce qui les attend, c'est clair que Dieu acceptera de ne pas régner sur eux. Dieu répondra à leur choix. Ce ne sera pas Dieu qui règnera sur eux. Ce sera la mort éternelle, l'enfer éternel, des souffrances éternelles. Et il nous faut vraiment prendre en compte cela. Ce soir, Dieu t'appelle à le laisser régner, à le laisser tout diriger, à le laisser prendre les commandes de ta vie, parce qu'il veut te bénir. Parce qu'il veut te donner la vie, te donner de vivre et d'expérimenter ce règne de paix, ce règne d'amour, ce règne de grâce. Et il y a une réalité, ce sont des choses, je le dis, qui sont bien réelles, bien concrètes, le règne de Dieu. Le règne de Dieu commence ici, maintenant. Il est pour chacun d'entre nous, nous pouvons tous entrer dedans, c'est ce que Dieu veut. Et comme dans tout royaume, il y a des règles, des lois, auquel Dieu nous demande justement de nous conformer afin de vivre et d'expérimenter son royaume, cette réalité, le règne de Christ. Et j'ai noté justement trois points que j'aimerais partager avec vous ici par rapport justement à ces règles, à ces lois que le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Premièrement, c'est l'obéissance. Afin de vivre réellement, concrètement, tous les jours, dans notre quotidien, ce règne merveilleux de Christ, le Seigneur nous appelle à obéir, tout simplement. Sa parole nous dit, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vous savez à qui Dieu a dit cela? Il a pu le dire à ce roi, Saül, qui avait été justement choisi par Dieu, pour être le roi sur son peuple, le peuple d'Israël. Mais cet homme n'a pas obéi, n'a pas prêté garde à la parole de Dieu. Et cet homme va être démis de ses fonctions. Cet homme va être rejeté par Dieu. Dieu va se retirer de lui. Et Dieu va lui dire par la suite, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Oui, l'obéissance. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, afin de vivre le règne de Christ dans nos vies. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à sa volonté? Parce que pour obéir, il faut connaître la volonté de Dieu. Et est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu recherches à faire ta propre volonté? L'obéissance. Dieu nous appelle à obéir à sa parole. Ça ne sert à rien de chanter des cantiques sur « Dieu règne dans mon cœur » si je n'obéis pas. Parce que ce n'est pas la réalité. Si je n'obéis pas à Dieu, j'empêche Christ de régner dans mon cœur. L'obéissance. Retenons. Le deuxième point, c'est la pureté. Jésus ne peut régner que là où le péché ne règne pas. Jésus règne dans des cœurs purifiés, dans des cœurs sanctifiés, dans des cœurs lavés. Et sa parole nous dit dans Romains chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Encore une question d'obéissance. À qui nous obéissons? Aux convoitises du péché ou à la parole de Dieu? Je ne reviens pas sur l'obéissance, ce que je veux qu'on prenne garde, c'est surtout que le péché ne règne pas dans nos corps. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant de l'accepter, de le recevoir, de nous convertir, de l'accepter comme du coup Seigneur, Maître, nous étions sous ce règne, le règne du péché, l'esclavage du péché. C'est ce que vivent toutes les personnes qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Maître, comme Sauveur, comme Seigneur. Le règne du péché. Et nous savons que Jésus-Christ est mort à la croix pour mettre fin à cela, pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour que nous puissions être réellement libres. Et c'est là une nouvelle extraordinaire, merveilleuse, qui est pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons réellement libres. Et cela, tous les jours de notre vie, même durant notre vie chrétienne. Cette épître aux Romains est adressée à des chrétiens. Et Paul parle à des chrétiens en leur disant que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. La solution, elle est et elle sera toujours en demeurant attaché à la croix. En demeurant vraiment, attaché à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. En laissant vraiment la croix régner dans notre vie, dans notre cœur. Parce que si la croix règne dans notre cœur, Christ règne. Et si la croix règne et que Christ règne, eh bien je suis libéré à l'égard du péché, à l'égard des convoitises. Et mon cœur est transformé. Nous avons chanté en la même image. C'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. La solution, elle est là, mon frère, ma sœur. J'aimerais vraiment t'encourager que si dans ta vie, dans ton cœur, tu es en lutte justement avec le péché, une dépendance, quelque chose qui te rend esclave, qui t'amène justement à pécher, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. C'est de laisser, Christ régner, s'attacher à la croix, de la laisser régner. Vraiment d'avoir cet attachement de tous les jours à lui, à sa parole, à sa présence. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il ne doit pas y avoir de compromis pour que Christ règne. Christ règne dans des cœurs purifiés. Et il est celui qui nous donne d'avoir ces cœurs purifiés par son sang qui a coulé. Son sang nous purifie de tout péché. Il ne doit pas y avoir de compromis, pas de légèreté. On ne peut pas jouer avec le péché, mais des cœurs purifiés, la pureté, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, afin d'expérimenter réellement, concrètement, le règne de Christ. Et j'aimerais aussi donner ce dernier point, afin de vivre le règne de Christ, c'est l'humilité. Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité, et Jésus ne peut régner que dans un cœur humble. Un cœur où le moi ne règne pas. Comprenez quand je dis le moi, notre propre être, notre personne qui veut s'élever, qui veut se montrer, qui veut être vanté, mis en avant. Jésus ne peut régner que dans un cœur où le moi ne règne pas. Qui est-ce qui règne sur ton cœur? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est l'ennemi de nos âmes? Qui est-ce qui règne? L'humilité. Jésus ne peut régner que dans un cœur humble. Et vous connaissez ce verset qui nous dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 5, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Béni soit le Seigneur. L'humilité. Recherchons-la de tout notre cœur. Christ est notre modèle. Christ est notre modèle. Et dans tous ces points, Christ est notre modèle. Lui a marché dans l'obéissance. A marché dans l'obéissance jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Il a marché dans la pureté. Et il n'a point commis de péché. Jusqu'au bout. Et il a marché dans l'humilité. Quelle grâce d'avoir pu justement recevoir le salut. Parce qu'il s'est donné de cette manière-là pour chacun d'entre nous. Et il est notre exemple. Et vous connaissez, donc je disais ce passage dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, justement où il nous est dit, que Dieu résiste aux orgueilleux. Et on cite souvent ce passage aussi pour ce verset que nous trouvons au verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. » Et on oublie parfois le contexte de ce verset. Et le contexte de ce verset, c'est justement cet enseignement sur l'humilité. Et un des pièges de l'ennemi, quand on s'engage à marcher avec le Seigneur, justement quand on ne tombe pas, quand on se détache du péché, du mal, de ce monde, eh bien un des pièges c'est de nous pousser, de nous élever et de faire en sorte que justement on puisse tomber dans l'orgueil. Ça a été son attitude, ça a été ce que lui avait dans le cœur quand il a voulu justement prendre la place de Dieu. Et il a été rempli d'orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu, être celui qui règne, celui qui dirige, et il a chuté. C'est ce qu'il a voulu aussi mettre dans le cœur d'Adam et Ève, c'est ce qui s'est passé. Vous serez comme des dieux, la tentation, et Adam et Ève, on le sait, ont eu ce désir eux aussi d'être comme Dieu, pouvoir avoir cette attitude d'être égal de Dieu, et ils ont chuté. Et tous ceux qui sont dans cette attitude d'orgueil, eh bien, seront amenés à chuter. Dieu résiste. Cette parole, elle est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu ne peut régner dans un cœur qui est orgueilleux. Dieu règne dans un cœur humble. Ce soir, prenons garde à ce qu'il n'y ait justement aucune attitude qui soit orgueilleuse dans nos vies, dans nos cœurs, mais que règne dans nos vies l'humilité, afin de vivre le règne de Christ. Jonathan disait tout à l'heure, et c'était dans mes notes, Jean chapitre 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Tout est dit dans ce verset. On voit là vraiment l'attitude d'un homme qui marche dans l'humilité, d'un homme qui a saisi l'importance du règne de Christ, d'un homme qui le recherchait. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est là ce à quoi Dieu nous appelle. Le règne de Dieu commence ici. Et il appartient à chacun d'entre nous, je le redis. Dieu ne nous forcera pas d'obéir, de marcher dans la pureté et de marcher dans l'humilité afin d'expérimenter ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voyons que par la suite, c'est ce qui nous donnera, si nous persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, de vivre pleinement, entièrement, le règne de Dieu, dans son ciel de gloire. C'est ce que la parole nous dit. C'est vrai que d'un côté, le règne de Dieu vient, et on l'hâte, comme sa parole nous le dit. On hâte que ce règne vienne. Le règne de Dieu, où nous serons tous enfin avec lui, dans sa gloire. C'est quelque chose qui, dans nos cœurs, eh bien, nous donne une espérance vivante, réelle, concrète. C'est vrai que ce règne est à venir, mais en même temps, il est déjà là, ici-bas. Et nous pouvons tous le vivre et l'expérimenter. Et si nous vivons ces choses-là, et si nous persévérons jusqu'au bout, nous serons menés à le vivre pour l'éternité. En attendant, Dieu nous appelle à persévérer dans ces choses-là, à travailler, à faire fructifier ce qu'il nous a donné. Parce que nous voyons que dans cette parabole, Jésus-Christ nous montre qu'il a donné à chacun. Qu'il a donné, là c'était des mines, c'était de l'argent. C'est une parabole, une image qui permettait aux personnes qui l'entendaient de comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire. Pour nous aujourd'hui, Dieu ne nous a pas, je dirais, donné d'argent, même s'il est celui qui pourvoit tous nos besoins. Hein. Mais ce qu'il nous a donné, il nous a donné des bénédictions spirituelles. Il nous a donné de recevoir tant de grâces à faire valoir, à mettre au service les uns des autres, afin que eh bien, son œuvre avance, son œuvre se développe. Et nous avons des responsabilités. Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais valoir? Est-ce que, eh bien, cela fructifie? Ou est-ce que je néglige ce travail-là? Est-ce que je le mets de côté? Est-ce que je le mets dans un linge, comme ce serviteur qui a été reconnu comme méchant? Et il y avait une différence entre ces serviteurs. Et pourtant, ce serviteur avait accepté le règne de cet homme de haute naissance. Mais malheureusement, il a tout perdu. Il a été dépouillé de tout. Ne faisons pas comme cet homme. Ne perdons pas de temps, mes frères et sœurs. Mettons notre priorité justement à servir le Seigneur, à travailler pour lui. Comme on l'a entendu récemment, Dieu embauche. Et il y a du travail. Et il y a du travail pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous appelle à entrer dans son œuvre. Dieu nous appelle à vraiment le servir de tout notre cœur, avec zèle, parce qu'il y a une urgence. Il y a des personnes qui se perdent dans ce monde, des personnes qui vont droit en enfer. Et il y a une urgence, des responsabilités que Dieu nous a données. Et devant lui, nous n'aurons pas d'excuses. Nous voyons ce serviteur qui n'a pas eu d'excuses. Que ton règne vienne. Je ne sais pas si c'est une prière que vous faites régulièrement, mais cette prière nous engage. Quand on dit à Dieu « que ton règne vienne », il y a une part qui nous revient. La part de Dieu, il l'a faite. Dieu a tout accompli. Et ne nous inquiétons pas du fait qu'il règne, mais accomplissons la part que Dieu nous demande, afin que ce règne se développe dans nos vies, dans nos cœurs, dans son Église, là où il nous a placés, dans notre famille, dans notre travail. Ne faisons pas comme les Corinthiens qui croyaient être arrivés. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, c'est Paul qui a pu leur dire « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Les Corinthiens croyaient qu'ils étaient déjà arrivés, croyaient qu'ils étaient déjà en train de régner. Et Paul va leur dire cela d'une manière ironique. Eux, ils croyaient qu'ils étaient arrivés alors que les apôtres eux-mêmes réalisaient qu'ils n'étaient pas arrivés. Il y avait une incohérence. Ne vivons pas dans cette incohérence, dans cette illusion, dans un certain confort qui nous amènerait à négliger ce que le Seigneur nous a donné et à vivre dans la paresse, à ne pas faire valoir, à ne pas le servir. Je terminerai avec ce verset qui nous dit, dans Matthieu 24, verset 46, « Heureux, heureux, ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi, trouvera en train de le servir, trouvera en train de œuvrer pour lui, pour son royaume. » Mes frères, mes sœurs, travaillons au règne de Dieu, au règne de Christ, en laissant Christ régner en nous, en le laissant tout diriger, en le laissant nous façonner, en le laissant nous conduire dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance, qui sont pour chacun d'entre nous, ici, maintenant. Amen.